Je salue Marc-Antoine Godin du athlétique.com. Bonsoir Marc-Antoine.
Bonsoir Mario.
Et bonsoir Danny.
Salut Mario.
Alors, dans un premier temps, messieurs, je vais commencer ce soir avec Marc-Antoine à la suite de la lecture de l'article que tu nous proposais aujourd'hui sur athlétique.com. Jonathan Drouin, c'est un nom qui est sur toutes les lèvres. Oui. Tu as eu l'occasion de le rencontrer hier après l'entraînement optionnel. Il était l'un des 8 ou 9 patineurs qui étaient là. Il semble pas en mode introspection en ce moment-là.
Non, mais j'ai trouvé qu'on était devant un gars qui était particulièrement frustré par la situation. Je pense qu'il pensait pas se descendre aussi bas. Écoute, évidemment, dans le dernier match, il a été le joueur le moins utilisé par les Canadiens. C'était la première fois depuis son arrivée à Montréal qu'il était le joueur le moins utilisé par Claude Julien dans un match. Et quand tu regardes le temps d'utilisation de Drouin, de Kotkaniemi au cours des derniers matchs, c'est des minutes équivalentes à celles d'un quatrième trio, encore plus que le trio de Nate Thompson. Alors, dans ce contexte-là, ben lui, il se retrouve... Le sens de mon texte ce matin, c'était de dire que 2 ans après, on se retrouve avec un joueur à caractère offensif.
Des flashbacks de Galchenyuk.
Galchenyuk, exactement. Relégué au quatrième trio, à l'aile gauche du quatrième trio. Ça ressemble vraiment à ce que Galchenyuk, la situation dans laquelle il se retrouvait à l'aube des séries éliminatoires en 2017.
Toujours la faute des joueurs, Danny Dubé? Ou à un moment donné, il manque de gars avec des talents semblables avec lesquels ces gars-là, peut-être, seraient plus à l'aise sur une glace, par exemple, dans une offensive comme ça, des Leafs ou des Oilers? C'est une pensée que j'envoie en l'air comme ça, parce que quand on vit des situations semblables avec des individus différents, est-ce qu'il y a lieu de seulement questionner les individus?
En tout cas, Danny, je vais te laisser.
Au départ,
l'équation. Mais j'élargis.
Première partie de l'équation, c'est se demander si le joueur fait tout ce qu'il faut. Dans le cas de Jonathan, c'est non. La réponse, c'est non. Est-ce que c'est de la mauvaise volonté? Je ne pense pas. Est-ce que ça peut changer? Oui. Qu'est-ce qu'il devra faire pour que ça change? Se rapprocher de la rondelle. Je vais dire quelque chose de bien banal. Les gens qui nous écoutent ils disent se rapprocher de la rondelle. Non, mais tu sais, moi, mon gars, il jouait au hockey, il était tout petit. Je disais, Gabi, t'es trop loin de la rondelle. Tant que tu vas être loin de la rondelle, t'es pas dans le jeu. Tant que tu vas être loin de la rondelle, elle viendra pas à toi. Puis si elle vient, tu vas être trop loin du filet. T'es trop loin de l'action. Jonathan Drouin, actuellement, vous remarquerez, là, dans toutes les situations, si vous avez la chance d'avoir accès au match, vous regardez le joueur, la rondelle est à gauche, pour prendre la vitesse au lieu... Maintenant, on dit toujours, on appelle ça dans le langage, là, il y a plusieurs termes, mais les entraîneurs vont dire « slash skating ». C'est couper dans le centre, rester convergé vers la rondelle. T'approches-toi de la rondelle. Jonathan fait systématiquement le contraire. Il s'éloigne de la rondelle.
Et j'oserais ajouter que quand il a la rondelle,
c'est terrible,
s'éloigne du filet.
Ben oui, par définition.
Parce qu'il aime mieux venir retourner,
là, dire,
comme Domi le fait parfois, revenir monter en haut de la zone.
Il va dire, Mario, mais c'est pour prendre la vitesse. Mais je comprends. Mais si tu prends de la vitesse et tu t'éloignes de la rondelle, tu deviens, de toute façon, très vulnérable. Parce qu'au moment où tu reçois la rondelle, tu es tout seul. Combien de fois Jonathan se retrouve en entrée de zone du côté ce qu'on appelle faible du jeu, donc le weak side, le côté où il n'y a pas beaucoup de support. Et là, il est pris pour prendre une décision. Mais là,
Et il n'y a pas d'option.
Il n'y a pas d'option. Alors, ça fait quoi?
Il ne repère pas ses coéquipiers.
Fait que non. Là, il s'est créé des revirements. Où il garde la rondelle trop longtemps. Et là, lui, il se décourage. Mais là, il cherche. Comment ça que je ne suis pas capable de... Oui, mais c'est parce que tu te retrouves dans des situations que tu crées toi-même où tu es un contre un. Alors que sa grande qualité, c'est un passeur. Alors, plus il va être dans l'action, il va être près de ses coéquipiers, plus il va pouvoir la redistribuer, la rondelle. Mais pour ça, il faut qu'il change son comportement. Son comportement n'a pas changé depuis le début de l'année. Il a toujours été comme ça. Maintenant, les équipes s'ajustent.
Et il a exprimé le fait qu'il n'avait pas vraiment l'intention de changer. Je ne sais pas si tu étais là quand il a dit ça il y a 2-3 jours. Il dit « Je ne changerai rien hier ». Et j'ai lu dans ton article, je n'ai pas eu le privilège d'être là dans la chambre, mais tu peux peut-être nous donner un peu de contexte. Mais il disait, par rapport à son temps de glace, « c'est pas moi qui décide, c'est l'entraîneur ». Donc,
ouais, mais il a une part de responsabilité là-dedans.
Ben oui, j'espère.
Parce que c'est bien beau. C'est vrai que c'est l'entraîneur qui décide combien de temps il va jouer, mais lui, il doit
force la main.
Exactement. C'est à lui, de par la qualité de son jeu, de gagner la confiance de l'entraîneur.
Parce que, il n'y a pas de coach qui veut perdre, là.
Ben non, ça, c'est clair. Puis je veux dire, c'est le joueur le plus doué de son équipe. Alors, à un moment donné, il est
admet-il
une clé pour
qu'il y a une part de responsabilité ou dans le fond, quand un gars qui dit « je ne changerai rien, je fais les bonnes affaires » ou en tout cas, il a l'impression de faire les bonnes affaires, vous n'avez pas l'impression qu'il fait les bonnes affaires.
La part d'introspection que Jonathan Drouin réussit à bien faire, je pense, c'est de reconnaître qu'il manque énormément de constance dans son jeu et il a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que ça va lui prendre pour gagner en constance. Mais il sait que ça lui manque, il sait qu'il doit travailler là-dessus, mais dans les aspects plus basic, plus terre-à-terre de son jeu, je ne sais pas dans quelle mesure il y a de l'introspection. Ça va lui en prendre parce que sinon, il y a, tu sais, il y a souvent ce que les joueurs donnent sur la glace et ce qu'ils pensent être.
Oui.
Il y a des joueurs qui ont une certaine idée d'eux-mêmes qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et quand ces joueurs-là ont
Est-ce qu'il est là dans cet état-là où tu penses que les coachs et lui sont sur la même planète quand ils parlent en ce moment?
Bien, le coach regarde ce que le joueur lui donne aujourd'hui, tandis que le joueur lui-même, je pense, voit ce qu'il peut devenir, l'étendue de son talent qui lui permet de dire « je peux être un joueur de vedette, mais est-ce que tu prends les moyens pour y arriver? » Ça, c'est une autre question.
Je voulais vous parler maintenant du jeune joueur de centre, Jesperi Kotkaniemi. Il y a eu beaucoup de réactions quand on l'a retiré de l'alignement pendant le voyage dans l'Ouest. Quand il n'a joué que 7 minutes et des poussières en fin de semaine, ça a provoqué encore beaucoup de réactions. Lui, il ne semble pas en faire grand cas. Je pense qu'il est allé à la défense de son entraîneur dans l'Ouest en disant « il doit savoir qu'est-ce qui est bien pour moi et bien pour l'équipe ». Et on disait de lui que c'était une bouffée d'air frais en début de saison. Et même dans la tension et l'adversité des derniers moments, il semble encore jouer ce rôle-là. Les gars, est-ce que vous le constatez chacun à votre façon dans vos rôles différents de couverture de l'équipe?
Ben moi, il m'apparaît quand même un peu plus perplexe. Il se questionne par rapport à qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi mon rôle diminue. Je pense que lui, dans sa tête, il se croit encore tout à fait capable d'offrir le même rendement qu'il le donnait en première moitié de saison. Mais je pense qu'on lui a donné... Il s'est retrouvé dans une position assez difficile parce que durant la majeure partie de la saison, il s'est retrouvé avec deux ailiers qui avaient énormément de difficultés à produire. Il a dû charrier Armia puis Lekkonen sur ses épaules. Là, il se retrouve avec Jonathan Drouin, qui est un autre type de problème en soi. Et il n'y a personne autour de lui pour venir... Lui porter secours quand lui, en tant que joueur recrue, en tant que plus jeune joueur de la Ligue nationale, il va en avoir des moments creux puis il va se poser des questions. Qui est là sur la glace en même temps que lui pour agir comme grand frère puis être là comme support? Alors que les rôles ont l'air inversés. Là.
Ton commentaire là-dessus, Danny?
Ben, écoute, moi, je pense que c'est un joueur qui, dans le cas de Lekkonen, qui est en devenir. Alors,
on parlait de Kotkaniemi, là.
De Kotkaniemi, pardon, c'est moi qui s'est trompé, ouais, c'est ça. C'est un joueur en devenir, donc on est très patient avec lui. On veut vraiment lui donner toutes les chances de trouver une zone de contribution. Le problème qu'on vit avec ce jeune joueur-là, c'est que il est pas assez efficace au niveau de patinage pour jouer en désavantage numérique. On a des spécialistes qui sont meilleurs que lui. On a un joueur qui se cherche offensivement parce que la production offensive dans son entourage n'est pas assez élargie. Tu sais, ce que Marc-Antoine disait, tu as fait raison. Si tu as un joueur avec lui qui marque des buts et il fait produire quelqu'un d'autre, tout à coup, là, le petit gars, il pense plus pareil. Tu sais, parce que c'est un passeur avant tout, c'est un fabricant de jeu. Fait que si, là, on le place sur un troisième trio, on dit on va lui donner des responsabilités défensives, on va le responsabiliser. C'est toujours ça qu'on fait avec les jeunes joueurs, puis c'est correct. C'est comme ça que ça se passe. Mais dans les circonstances que l'on vit actuellement chez le Canadien, on aurait besoin de cette contribution-là et elle n'est pas là. Et ça, ça cause un problème qui, en bout de piste, rattrape le jeune homme parce que lui, là, il est pas fou, là. Il sait qu'il n'a pas marqué un but cette année encore à l'étranger. Il sait que sur l'avantage numérique, c'est important qu'il fasse produire des choses. Puis c'est pas nécessairement facile parce que l'équipe est dans une espèce de slump. Écoute, là, dans les 5 derniers matchs, le Canadien a marqué 7 buts, là. Okay, puis on réussit quand même à gagner parce qu'il en a donné 6 à l'adversaire.
Ben, c'était ça qui était impératif, c'était coupé dans les buts contre.
Ben oui, mais à un moment donné, c'est parce que l'espèce de contrepoids, ça vient sur les épaules, pas juste de Drouin, ça vient sur les épaules des joueurs de soutien. Donc, Kotkaniemi fait partie.
Ce qu'on a vu dans le dernier match du Canadien, c'est une structure qu'on a vue lorsque le Canadien a eu du succès en marquant moins de buts. Toutefois, ils ont réussi à gagner ça avec un troisième filet dans un troisième but dans un filet désert. Mais il reste que le Canadien qu'on a vu connaître du succès généralement respectait une certaine structure. Et peu importe où vous allez dans la Ligue, que ce soit Toronto actuellement ou Mike Babcock, tente de rappeler l'importance de cette structure-là parce que les Leafs ont battu tous les clubs qui sont non qualifiés dans les séries, mais ont beaucoup plus de difficultés contre les équipes qui sont étiquetées équipes de série. Ouais. On parle des Islanders de New York et du succès de Barry Trotz encore une fois. Et ça fait assez longtemps que vous couvrez ça puis que vous entretenez avec tout ce monde-là. Il semble que c'est ça qui est le plus difficile à faire, d'amener tout le monde à respecter une structure, de les convaincre qu'au-delà de l'individu, que c'est collectivement qu'on va gagner des matchs. Si le Canadien a retrouvé un temps soit peu cette empreinte-là lors de sa dernière victoire, c'est clair que ça améliore de beaucoup les chances. Mais pensez-vous que c'est un concept qui est difficile à vendre pour Claude Julien à ses joueurs, parce qu'il a été difficile à appliquer, en tout cas, dans le dernier mois?
Oui, effectivement. Mais en fait, c'est qu'on est encore à se demander, est-ce que le Canadien a simplement vécu un passage à vide où il y a quelque chose qui a cassé et qui va seulement être réparé après cette saison. Parce que là, ça se peut très bien que, bon, il a eu de la difficulté à appliquer son système et il y revient. Peut-être que c'est un seul match suffit, puis on est de retour à ça. Mais on a un adversaire ce soir, les Islanders de New York, qui n'ont jamais, jamais, de toute la saison, n'ont jamais dérogé de ce système-là. Écoute, entre autres, Barry Trotz a complètement modifié la ligne bleue de cette équipe-là. En fait, l'unité de 5 en défensive, c'est une équipe qui était considérée comme étant la pire brigade défensive de la décennie dans la Ligue nationale. Exactement. Et là, il a transformé l'équipe en une équipe extrêmement pire, extrêmement avare en défensive. Et ça a tenu toute la saison. Pourquoi le Canadien, eux, ils n'ont pas été en mesure de le faire? C'est parce qu'à un moment donné, je pense que leur chiffre à 5 contre 5 en attaque était gonflé artificiellement. Ils n'étaient pas capables de tenir ce régime-là. Et là, quand tes buts pour baissent, ben forcément, il faut que tu deviennes toi-même de plus en plus avare et que tu t'assures au moins que quand l'adversaire rentre dans la zone, qu'il tire de l'extérieur et que tu facilites la vie de ton gardien. Ils réussissent à le faire, mais il faut que ça tienne encore 10 matchs. Là.
Sans négliger un aspect tellement important que tu as souligné très souvent, le fait qu'il faut marquer des buts puis sans commettre de trop d'erreurs et l'implication des défenseurs dans l'attaque qu'on a vu davantage dans le dernier match. Un temps de glace réparti, mais c'est essentiel, Danny.
Oui, bien là, il y a deux. La première chose, c'est par rapport à la baisse de régime du Canadien. Il faut aussi se rappeler qu'il y a des attentes à gérer. Il y a des joueurs qui ont de la difficulté à gérer les attentes. Tu sais, tu te mets
les
dans.
Les attentes du public, tu veux dire, les attentes de l'équipe envers eux.
Tout.
Les joueurs.
Les joueurs, surtout. Oui. Plaçons-nous dans les souliers de Jonathan Drouin, 5 minutes. Là. Essayons d'être dans sa peau. Là. Imagine-toi, lui, là, es-tu nerveux avant un match? À Montréal, en plus, il veut produire. Il force la mise, il force le jeu. Ça lui fait faire des erreurs. Ça fait faire des erreurs à ses coéquipiers. Même chose pour Domier quand il était sur une mauvaise séquence. On force la mise, on veut gagner, on veut pousser. Et là, on fait des choses qui nous appartiennent moins. Alors ça a causé beaucoup de problèmes aux équipes, aux Canadiens, en fait, parce que les équipes se sont ajustées. Puis c'est ça qui a forcé le Canadien à comme un peu sortir de ce qui avait fait leur succès. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme ajustement? C'est qu'au début de l'année, tout le monde courait après les joueurs du Canadien. On disait, on va les ralentir, on va coincer les ailiers, on va mettre de la pression sur les ailiers. Ils ne pourront pas sortir avec de la vitesse. Le Canadien était prêt à ça. Leur système de jeu fonctionnait très bien. Passe en travers aux défenseurs de l'autre côté de la patinoire, transporte la rondelle, jeu en croisé en entrée de zone, bang, on attaque le centre. Écoute, c'était de toute beauté.
De toute beauté, excitant. Alors, mais là, les adversaires continuent de regarder les vidéos.
À un moment donné, il y en a un fin finot qui s'est levé en main, il a dit pourquoi on court après eux autres? Pourquoi on ferme pas juste les attentes dans le milieu? Pourquoi on ferme pas le centre de la glace et on leur donne pas juste l'extérieur? Là, tout à coup, tu forces des joueurs à jouer contre nature. Un tas de joueurs extrêmement rapides qui veulent avoir le centre de la glace et qui ne l'ont plus, qui doivent maintenant aller bagarrer dans les zones critiques, qui doivent jouer contre des joueurs plus costauds qu'eux. Et s'ils ne prennent pas l'avance dans le match, qu'ils sont obligés de forcer puis d'impliquer les défenseurs, qui provoquent encore une fois des situations de surnombre. Alors, c'est l'effet domino qui s'installe, mais contre le Canadien. Alors, tout ça dit que, oui, il faut marquer le premier but, oui, il faut garder le pointage très bas, il faut espérer qu'à un moment donné, ici et là, des contributeurs vont se pointer, que ceux qui sont dans une torpeur, parce que Tatar en est dans une aussi, a marqué son dernier but le 25 février. Ça, faut que ça arrête.
Il y en a un ou deux qui débloquent, c'est là.
Oui, exactement.
Parce que les matchs qu'on a réussi à gagner, c'est parce qu'il y en a qui, tout à coup, sortis de nulle part. Il y a eu combien de tours du chapeau? On n'a jamais vu ça cette année. Les uns après les autres et qui ont permis aux Canadiens de gagner des matchs. Dano, Shaw.
C'est ça.
Armia également. Alors, il y en a eu quelques autres, mais c'est pas une production qu'on peut qualifier de stable et rassurante quand tu regardes les matchs à venir. On est avec Danny et Marc-Antoine Godin du Athletic.com en direct du Centre Bell. Les Islanders sont les visiteurs et on vous revient dans un instant. En direct du Centre Bell avec Danny Dubé et Marc-Antoine Godin du site athletic.com. Les gars, on surveille attentivement ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Tampa Bay a gagné un très gros match hier contre les champions de la Coupe Stanley. Les Caps qui veulent finir premier de leur division, 58 tirs. Et c'est un match où le Lightning a été dominé, mais ils peuvent gagner avec leur gardien qui leur donne un match. Ça a été le cas de Vasilevskiy. Voyez-vous le Lightning de Tampa Bay comme l'équipe qui va tout gagner cette année, ou vous pensez que c'est une bonne équipe de saison régulière, mais à qui il va manquer un petit quelque chose, rendu peut-être en finale de conférence ou quelque part en série?
C'est dur de voir une équipe qui est parfaite, mais s'il leur manque quelque chose, il manque quelque chose à toutes les équipes. Parce que c'est l'équipe la mieux construite des 20 dernières années. Ils m'apparaissent mieux construits que n'importe quelle édition des Capitals de Washington. Même au moment, tu sais, le fameux printemps à lac de 2010, les Canadiens avaient surpris des Capitals de Washington qui, à cette époque-là, étaient une équipe pactée, qui était considérée comme étant à leur somme.
Oh, oui.
Je pense qu'il faut retourner aux Red Wings de Détroit, début des années 2000, pour avoir une équipe qui, à
aussi
mon avis,
complète, hein?
est aussi complète, aussi bien construite. Ils n'ont pas de faille. Alors, à mon sens, je sais que très souvent, on voit des équipes finir première et ne pas gagner la Coupe Stanley. C'est quasiment plus la norme de voir cette conclusion-là. Mais tu n'as pas le choix de les considérer comme étant largement favoris de gagner la Coupe.
Ils affrontent la Caroline ce soir. C'est un deuxième match en deux soirs. Est-ce que vous pensez que l'équipe que le Canadien peut rattraper, Danny, c'est la Caroline ou Columbus? Ou...
Non, c'est Columbus. Le Canadien a une équipe à rattraper, c'est Columbus. Je trouve que il y a de l'instabilité avec les Blue Jackets. Il y a de l'émotion.
Je rappelle que Bobrovsky est blessé pour l'affrontement à Edmonton ce soir.
C'est qu'il y a quand même, je trouve, il y a plus d'éléments de distraction, tandis qu'on regarde du côté de la Caroline. Ça fait à peu près deux mois que c'est une équipe qui est en progression constante, qui joue bien en haut de 500, qui trouve une façon de gagner. Il y a quelque chose d'assez magique. Depuis l'arrivée, je trouve, de McElhinney, il y a comme eu... ça crée de l'équilibre. Ils ont deux gardiens de but qui sont capables de contribuer. Ça semble faire le travail. Moi, je pense que si le Canadien peut rattraper une équipe, c'est Columbus. Puis en ce qui concerne le Lightning, c'est une équipe... Sa grande force, c'est le rythme de jeu. La grande force de cette équipe-là, c'est quand ils ont la rondelle, le rythme qu'ils sont capables de maintenir.
Et en plus, ils ont un jeu de puissance assez décapant.
Oui, bien tout ça. Quand ils ont la rondelle, là, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale. Maintenant, je veux dire quelque chose, là. J'ai participé à une étude à l'Université de Trois-Rivières sur l'importance du système de jeu versus les initiatives individuelles. Écoute, c'est une étude super intéressante. On regardait les matchs de la conquête de la Coupe Stanley des Blackhawks de Chicago en finale contre le Lightning. Le Lightning a eu la rondelle plus souvent, plus longtemps, ont eu plus de tirs, ils ont dominé dans toutes les phases de jeu, puis ils ont perdu la série. Tout ce qu'on dit qu'il faut faire, ils l'ont fait, puis ils ont perdu. Alors, des fois, tu dis...
Le gardien qui avait fait la différence en partie?
Le jeu défensif, de les ralentir, de les marteler, de créer des situations inappropriées pour...
Il y a bien des intangibles, hein?
Oui. Et moi, je pense que c'est ce qui guette un peu encore le Lightning. À la différence, c'est que c'est une équipe qui a souffert. Quand t'as assez souffert, vraiment, tu trouves une manière de t'en sortir.
Comme Washington qui a souffert si longtemps.
Oui.
Et je suis curieux de voir si San Jose, quoique actuellement, ils ne peuvent pas trop compter sur un Martin Jones au sommet de sa forme. Mais San Jose pourrait vivre ce que Washington a vécu l'an passé après des années d'attente. En deux secondes, Edmonton, est-ce qu'il gagne ça ce soir contre Columbus, Marc-Antoine?
Oui, je pense que oui.
Go Oilers!
C'est ça. Ben, écoute, les Oilers ont la rage au cœur.
Nous sommes très objectifs, mesdames et messieurs. Je vous le rappelle, et on vous souhaite un excellent match à notre antenne. Merci Marc-Antoine.
Go Oilers, go!
Et Danny Dubé. Martin, après la pause avec Danny. Bon match!